Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, un député provincial dépose une question orale sur la gouvernance de la ville de Kinshasa. Cet élu de Kinshasa se pose autant de questions. Pourquoi les chantiers n'aboutissent pas et comment certaines dépenses de prestige continuent pendant que Kinshasa étouffe? Les conducteurs de moto-taxi endurent depuis leur interdiction d'accéder à Kintambo Magasin. Ils sont désormais contraints de s'arrêter soit au rond-point Chamoukwale, soit avant l'hôtel Malebo. Cette situation entraîne une forte concentration des passagers et des véhicules dans ces zones. Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé mardi 19 mai 2026 à Kinshasa. La plateforme est dénommée Coalition Article 64, soit C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC. La mise en place de cette plateforme était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ce journal par l'environnement. La ville de Kinshasa coule sous les immondices, les embouteillages monstres et des chantiers sans fin perturbant au quotidien la vie des Kinois. Ces préoccupations font l'objet de la question orale que le député provincial Aubin Mukanu Isukama a adressée hier mercredi au gouverneur de la ville de Kinshasa. L'auteur de cette démarche affirme que le peuple a le droit de savoir où va l'argent des taxes et des recettes publiques qui contrôlent les fonds engagés dans les grands projets. Pourquoi les chantiers n'aboutissent pas et comment certaines dépenses de prestige continuent pendant que Kinshasa étouffe? On écoute Aubin Mukanu dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Au nom du peuple kinois, nous refusons de rester silencieux face à l'effondrement progressif de la gouvernance de Kinshasa. Notre démarche n'est ni un règlement des comptes, ni une agitation politicienne. Elle procède d'un devoir républicain face à une ville qui souffre chaque jour davantage. Pendant que l'exécutif provincial multiplie les annonces et les opérations de communication, les Kinoises et les Kinois subissent les routes dégradées, les embouteillages inhumains, les chantiers interminables, l'insécurité, l'insalubrité, les marchés anarchiques, les services publics paralysés et les salaires impayés. Kinshasa souffre, Kinshasa étouffe, Kinshasa recule. Le peuple a le droit de savoir où va l'argent des taxes et les recettes publiques, qui contrôle les fonds engagés dans les grands projets, pourquoi les chantiers n'aboutissent pas et comment certaines dépenses de prestige continuent pendant que Kinshasa étouffe. Quelles sont les véritables priorités budgétaires pour 2026? Où sont les rapports d'exécution budgétaire? Où sont les résultats visibles pour la population? Comment justifier des projets coûteux des résidences officielles du gouvernement ainsi que du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et d'un nouveau siège du Parlement provincial pendant que Kinshasa croule sous les immondices, l'insécurité et les routes inachevées?
Autre problème, puisque nous parlons des embouteillages, notez que les conducteurs de moto-taxi, communément appelés Wewa, qui empruntent l'axe Kintambo Magasin, vivent un véritable calvaire depuis l'interdiction faite aux motos d'accéder à cette partie du centre-ville de Kinshasa. Aux premières heures de la matinée, d'importants embouteillages sont régulièrement observés sur les tronçons pompage Sola DGC en direction de Kintambo Magasin. Reportage de Jérémy Baraka.
Les motards sont désormais obligés de s'arrêter soit au rond-point Chamoukwale, soit avant l'hôtel Malebo. Cette situation entraîne une forte concentration des passagers et des véhicules dans ces zones. Ils appellent les autorités à mettre en place des solutions adaptées pour atténuer les difficultés rencontrées sur le terrain. Plusieurs d'entre eux dénoncent également des tracasseries dont ils seraient victimes de la part des services de sécurité.
Nous avons vu qu'il y a un colonel qui vient de Kanchach, de la Grande Républicaine. En tout moment, il récupère les motos pour amener ça au Kanchach au lieu de passer des magasins.
Lorsqu'on nous intercale pour ne pas arriver à magasin, c'est bien sûr, mais il faut chercher pour nous une autre place.
Les clients interrogés à ce sujet dénoncent et aussi la hausse des prix des transports depuis l'application de cette mesure.
Je viens des pompages pour venir ici. On m'a demandé de payer 4 500. Auparavant, on payait 2 500.
Selon des sources concordantes, cette interdiction s'inscrit dans le cadre de mesures visant à limiter l'accès des motos au centre-ville de Kinshasa. En attendant d'éventuels aménagements ou mesures d'accompagnement, les passants continuent de subir les conséquences de cette nouvelle organisation de la circulation.
Santé à présent, la RDC est en train de lutter contre la 17e épidémie de la maladie à virus d'Ebola depuis plusieurs années, vous le savez. Mais pourquoi cette répétitivité de ces virus en République démocratique du Congo? Un médecin sur une chaîne étrangère a déclaré que ces virus reviennent souvent au Congo parce que la population s'est nourrie de la viande de la chauve-souris. Devant les professionnels des médias lors du briefing de presse co-animé mardi à Kinshasa avec les ministres de la Santé publique et celui de la Communication et Médias, Dr Jean-Jacques Mouyembe, spécialiste en virologie, a affirmé que plusieurs facteurs interviennent sur la survenance récurrente de cette épidémie en République démocratique du Congo. Les propos de Jean-Jacques Mouyembe, recueillis par Radio Okapi.
Les épidémies sont de plus en plus fréquentes, presque chaque année ou tous les deux ans. Et cela est dû à quoi? Il y en a qui ont dit, bon voilà, c'est parce que notre système de surveillance s'est amélioré, donc on détecte vite une épidémie. Peut-être c'est vrai, mais je pense que cette fréquence est due au fait des relations entre les personnes et leur environnement. Donc, les Congolais fréquentent de plus en plus, n'est-ce pas, la profondeur des forêts et entrent en contact avec les réservoirs du virus ou avec le virus lui-même et ils sont infectés. Un autre facteur, c'est la viande de brousse. La viande de brousse, c'est une source principale, n'est-ce pas, des protéines pour les Congolais, du moins ceux qui habitent en milieu rural. Il n'y a pas de poulet là-bas, il n'y a pas de n'est-ce pas, de viande de bœuf et ainsi de suite. Donc, on se contente des fruits de la chasse. En plus de ça, je crois qu'il y a les changements climatiques. Le changement climatique doit jouer un rôle important dans la fréquence. Et tout ça dans un pays qui a un écosystème très riche et diversifié, favorable donc à l'émergence des pathogènes comme les fièvres hémorragiques.
Entre-temps, les populations du Nord Kivu et Ituri sont confrontées à d'autres difficultés. Des doutes persistent, en effet, sur l'existence de cette fièvre hémorragique, d'où les messages lancés par la mission d'aide aux personnes en détresse, à savoir, je cite, « Laissons de côté les doutes et les discussions autour de cette maladie. Ebola existe, unissons-nous pour y faire face. » Fin des citations. Cet appel intervient évidemment dans un contexte marqué par des résistances et réticences observées dans certaines communautés, favorisant ainsi la propagation de cette maladie. Pour Théophile Katembo, son coordonnateur, Ebola est une réalité. Il ne s'agit pas d'une invention ni une théorie complotiste, puisque c'est une maladie qui tue. Il invite les populations à une prise de conscience collective en observant les gestes barrières. Théophile Katembo s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Personne en détresse. Là, c'est un appel à la population du Nord qui voudrait de l'Ituri ainsi que des provinces voisines que la maladie est réelle et qu'elle doit prendre des mesures de protection et de prévention, notamment lavage de mains et dénoncer d'urgence aux structures de santé les cas qui présentent des signes. Donc d'y aller, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la mépris ou de la guerre, c'est une maladie, c'est une réalité que nous avons déjà vécu plusieurs fois. Pour ce, nous demandons à toute personne qui a encore des doutes de comprendre que la maladie est là, un danger pour la vie. Et c'est pourquoi nous tous, nous devons rester unis afin de lutter contre cette épidémie qui est encore dans notre mire.
Et puis cette alerte à la vente des désinfectants périmés en Ituri. Ces produits sont vendus dans des boutiques et officines pharmaceutiques pour riposter contre cette maladie. Face donc à cette pratique qualifiée de scandaleuse, des activistes de défense des droits humains et acteurs de la société civile haussent les tons. Ils interpellent les autorités à s'impliquer pour que les auteurs de ce qu'ils qualifient de mafia répondent de leurs actes. Reportage Martial Kizabiamongo.
Dans les rues et différentes ardeurs des Bounia, différents produits et articles utilisés dans la prévention et la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la ville sont vendus en grande quantité par des opérateurs économiques dans des boutiques et officines pharmaceutiques et également par des ambulants. Cependant, parmi ces produits, on trouve des désinfectants périmés pour les mains et d'autres mélangés d'eau. Témoignage de cette femme de ménage.
Exactement, hier j'ai acheté fait des effets périmés. Je n'ai pas pu regarder la date de l'expiration parce qu'on achète ça dans des pharmacies, mais nous sommes dessus.
Des activistes des droits humains et acteurs de la société civile parlent d'une pratique scandaleuse qui met la vie de milliers de personnes à danger. Maître Eddy Makindou, l'un d'eux.
Qu'est-ce qu'ils font ces commerçants? Ils impriment plusieurs étiquettes avec de nouvelles dates de fabrication et de nouvelles dates de péremption. Je trouve personnellement que c'est un sabotage sanitaire.
Le chef de la division provinciale de l'économie à l'Itouri promet d'envoyer sur le terrain des inspecteurs afin de mettre fin à cette situation. Depuis la ville de Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons à l'Itouri pour parler sécurité. Au moins 17 civils morts. Bilan d'une nouvelle attaque mardi dans le village d'Alima, situé à quelques kilomètres de Biakat au centre, dans le territoire de Mambasa en Ituri. Attaque attribuée aux combattants des ADF. Des maisons et commerces ont également été incendiés pendant que plusieurs habitants restent introuvables. La société civile alerte sur la progression des assaillants vers d'autres villages de la région. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
Le bilan provisoire de l'attaque attribuée aux rebelles des ADF mardi à Alima, dans la chefferie des Babila Babombi, en territoire de Mambasa, fait état d'au moins 17 civils tués, selon des sources de la société civile. Les assaillants auraient d'abord été signalés dans les environs du village vers 11h locales, où deux personnes auraient été exécutées avant l'attaque du centre d'Alima, malgré l'alerte donnée aux services compétents, selon des sources locales. Au cours de cette incursion, un hôtel, plusieurs kiosques et des motos ont été incendiés. Des chèvres ont été également emportées par des assaillants. Selon les mêmes sources, plusieurs personnes restent encore portées disparues, tandis que certaines zones demeurent difficilement accessibles. Ce mercredi matin, les assaillants ont poursuivi leur progression vers le village de Manyama, où deux autres civils auraient été tués et plusieurs maisons incendiées. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les autorités militaires à renforcer urgentement la sécurité dans plusieurs villages de la zone. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa promet de se prononcer à ce sujet ultérieurement. Bounia, Jean-Claude Douki, Dile, Radio Kapi.
Journée mondiale des abeilles, c'était hier mercredi 20 mai, avec cette interrogation. Quelle est la qualité du miel congolais? Une occasion pour des membres du gouvernement, des parlementaires, des coopératives et autres investisseurs pour échanger sur les moyens pouvant aider à bâtir une filière apicole compétitive et tournée vers l'exportation. Les discussions ont aussi porté sur la qualité du miel congolais, la levée des barrières à l'export vers l'Union européenne, ainsi que sur la structuration des coopératives. À travers cette initiative, les acteurs veulent faire du miel congolais un secteur stratégique capable de créer des emplois tout en protégeant la biodiversité. Nancy Atambo, reportage.
À Kinshasa, l'apiculture vit désormais prendre une nouvelle dimension. Le forum réunit producteurs, institutions et investisseurs autour d'une même ambition. Faire du miel congolais une véritable filière d'avenir. Madame Déborah Nzaruba, directrice de Grécom, est revenue sur les objectifs du forum et les défis du secteur.
Aujourd'hui, le 20 mai, la journée mondiale de l'abeille, de lever nos voix, de parler par rapport aux défis que nous rencontrons dans l'apiculture et aussi aux opportunités qu'il y a dans cette filière. Pour cette année, c'est encore plus particulier.
Le représentant de l'ANAPEX a de son côté souligné les potentiels économiques du marché du miel et appelé l'État à renforcer son appui au secteur.
Nous sommes convaincus que le miel congolais et les produits de la ruche peuvent devenir un levier stratégique de diversification.
Les participants ont salué l'initiative tout en rappelant la nécessité d'actions concrètes pour développer une apiculture compétitive en RDC.
Ça nous fait grand plaisir. Puisque nous venons aussi exploiter certaines connaissances que nous n'avons pas.
Pour tous les acteurs présents, l'apiculture peut contribuer à la diversification de l'économie congolaise à condition que le producteur, institution et partenaire avancent ensemble.
Direction Kasaï-Oriental à Mbujimayi précisément. Des centaines de femmes s'activent chaque jour au bord de la rivière Loubilangi dans une activité aussi pénible que méconnue, le concassage manuel de grosses pierres pour produire des graviers destinés à la vente. Une tâche harassante, physiquement éprouvante et exercée dans un environnement où la précarité rivalise avec les risques sanitaires. La délégation du groupe de coordination des partenaires a échangé la semaine dernière avec ces femmes
sur leurs conditions de travail. Esther Ndarafina pour le reportage.
Dès les premières heures du matin, les femmes habitant le quartier Mbinza dans la commune de Dibindi, parfois accompagnées de leurs enfants, descendent dans les lits de la rivière Lubilanji. Elles soulèvent des lourds blocs de pierre, les brisent à coups de marteau, puis trient les éclats pour en faire des graviers. Jeanne Kabangou affirme que son travail présente des risques. Casser les pierres à longueur de journée, ce geste répétitif laisse des séquelles visibles, comme le témoigne Nana Njiba.
Des blessures aux mains. Et une fatigue excessive.
Malgré leur rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction, ces femmes affrontent une précarité extrême. Leur revenu dépend du volume de gravier produit, souvent vendu à des prix dérisoires. Elles gagnent en moyenne 5 000 à 10 000 francs congolais par jour, un montant insuffisant pour couvrir les besoins essentiels d'un ménage. Une travailleuse, le visage couvert de poussière, affirme que ce travail nous détruit, mais c'est le seul qui nous reste.
Donc pour nourrir nos familles, scolariser nos enfants, nous payons les loyers, nous n'avons plus rien à faire.
Pour certains observateurs, ces femmes qui portent à bout de bras une activité essentielle pour la ville méritent d'être vues, entendues et protégées. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, hasard du calendrier ou nouvel exemple de la double communication divergente à la tête de l'État. À partir de ce jeudi 21 mai et jusqu'au 31 mai, le président Bassirou Diomaye Faye a prévu de s'entretenir avec l'ensemble des forces vives de la nation dans un exercice de dialogue, tandis que vendredi, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, va s'adresser aux élus pendant une séance publique dédiée aux questions d'actualité. Un exercice de communication perçu comme potentiellement concurrent.
L'invité.
Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé mardi 19 mai 2026 à Kinshasa. La plateforme est dénommée Coalition Article 64 ou C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC. À travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. La mise en place de cette plateforme était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Mike Mkebaye, vous êtes député provincial honoraire, vous êtes coordonnateur provincial pour la ville de Kinshasa, du parti politique Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition. D'abord, pourquoi la coalition article 64, pourquoi pas article 5 ou article 4?
C'est l'article 64 qui donne devoir. Il dit même pas qu'il s'agit d'un droit, mais d'un devoir à tout Congolais de s'opposer à tout autre Congolais ou à n'importe quel groupe de Congolais qui accède au pouvoir par la force ou qui, une fois au pouvoir, essaie de les conserver en violation de la Constitution. Donc c'est cet article, en fait, qui nous donne mandat pour agir.
Et comment espérez-vous atteindre votre objectif dans un contexte où l'opposition est considérée comme une opposition Yanzala, opposition YAPT, comme pour dire que l'opposition n'a pas la capacité d'empêcher les pouvoirs à changer la Constitution?
À notre niveau, sur le plan stratégique, on est très heureux que Félix Tshisekedi présente l'opposition sous ces jours-là comme une opposition faible. C'est comme ça que l'opposition était perçue en 2015 par les officines de Joseph Kabila. À l'époque, il disait que, un, les Kinois, ils sont incapables de tenir 3-4 jours dans la rue parce qu'ils vivent au jour le jour. Et ensuite, quand ça crépite, ils détalent. Et c'est sur cette base-là qu'ils avaient fondé, en fait, la certitude qu'ils allaient faire passer la fameuse loi électorale qui posposait les élections sine die pour privilégier l'organisation du recensement. Cette loi a été soumise à examen à l'Assemblée nationale. Elle est passée. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'opposition avait appelé à manifester et qu'elle n'a pas pu arrêter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Obem Minaku, président de l'Assemblée nationale, s'était moqué de nous. C'est quand finalement cette loi arrive au Sénat et que les gens s'attendent le moins du monde qu'elle peut être bloquée, surprise, les Kinois ont battu le pavé pendant une semaine et que Kabila a reculé.
Parce que vous rappelez cette période-là, est-ce que aujourd'hui l'opposition bénéficie des conditions dont elle bénéficiait à l'époque? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des mouvements citoyens qui étaient avec l'opposition. À l'époque, il y avait même l'Église catholique qui était avec l'opposition. Est-ce que vous bénéficiez de tous ces appuis-là aujourd'hui?
Nous n'avons pas à bénéficier ou à aller chercher l'appui de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été un allié traditionnel aux aspirations du changement.
Merci. Peter Kazadi, vous êtes avocat, vous êtes député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Comment vous comprenez la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64?
Les amis, d'abord,
C'est de leur droit de se constituer en un cartel pour espérer combattre le pouvoir. Et c'est ça le rôle de l'opposition. L'opinion se souviendra qu'ils ne sont pas à leur premier rassemblement et jusque-là nous ne sentons rien. Et je suis sûr que Mike Mukeba sait que la politique, c'est avant tout un rapport de force. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables de mobiliser la population pour que celle-ci se rallie à leur cause, ils peuvent boucrier comme ils le font. Nous n'arrêterons pas d'avancer.
Et donc, on voulait dire que les rapports de force sur le terrain actuellement est en faveur du régime en place?
Non, c'est en faveur du peuple. Le peuple soutient le régime parce que il reçoit des réponses à ses besoins.
Merci Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64?
Je crois que ce sont des manœuvres, hein, de manœuvres politiques de positionnement. Nous avions senti à un moment donné que la famille présidentielle s'organisait, qu'en face l'opposition ne prenait pas l'élan de se structurer. Là, l'opposition congolaise a donné, en tout cas une partie de l'opposition, le signe qu'ils pouvaient se réunir de manière conjoncturelle autour d'une cause. L'histoire récente a démontré que soit les dynamiques tout sauf Kabila ou les questions concernées ont toujours été des questions fédératrices pour l'opposition. Et donc, cette manœuvre-là nous positionne sur des possibles contestations de la rue, comme on l'a connu dans le passé. L'équation qui demeure, c'est est-ce que l'opposition aura les mêmes capacités qu'en 2015, qu'en 2016, pour drainer dans la rue la population.
Justement, on se rappelle ce qu'étaient les actions de l'opposition en 2016-2015 et qui avaient réussi, n'est-ce pas, à faire reculer le régime Kabila. Et vous pensez que dans les contextes du moment, l'opposition a les mêmes capacités qu'elle avait utilisées à l'époque pour lui permettre d'obtenir gain de cause?
La faiblesse stratégique de l'opposition, c'est que l'UDPS vient de l'opposition et que d'une certaine manière, l'UDPS connaît ce qu'elle a comme stratégie l'opposition utilisée dans le passé. Et donc l'opposition devrait se réinventer. Si elle entend rééditer les exploits d'hier, eh bien l'UDPS qui a longtemps maîtrisé l'opposition sait comment contrer les approches qu'elle a même utilisées dans le passé, dans un passé récent.
C'est la fin de ce journal du matin préparé pour vous par Lievin Bwingavubu et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.